Seigneur, on veut te remercier de nous avoir laissé cette grande lettre qu'est ta parole, la Bible. On te remercie aussi d'avoir équipé des frères pour pouvoir nous la présenter, nous la porter ce dimanche matin. Merci d'avoir équipé Jean-Luc. Et on te prie maintenant pour que tu le bénisses, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles de manière à ce qu'on puisse mettre en pratique ton message cette semaine et pendant toute notre vie, Seigneur. Béni sois-tu, glorifie-toi encore à travers ce que nous allons partager ce matin et bénis Jean-Luc. Amen. Et donc, alors je vais lire directement dans ta version, c'est ce qui est encore le mieux. Donc je ne suis pas Jean-Luc. Mais je vais lire dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bonjour. Merci pour votre accueil chaleureux. Ça fait plaisir de jouir la communion fraternelle pendant l'été, d'être, tous ensemble. Hein. On n'a pas toujours l'habitude de se voir tous ensemble comme ça, donc c'est formidable de le faire de temps en temps. Jouir de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Voilà, alors ce matin, je vais vous adresser un message qui, à contrario de mes habitudes, d'habitude je fais des messages à caractère textuel, expositionnel, je prends un texte. Là, je vais avoir une approche thématique, je vais avoir au moins trois textes, qui, à cause du thème choisi, qui est la thématique des commandements liés au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Voilà. Très bien, ceci étant dit, c'était presque une excuse, mais bon, Jésus n'avait pas forcément toujours une approche textuelle, n'est-ce pas? Bon, je ne me comporerai pas au Seigneur. Bref. Voilà, donc vive les vacances, hein. C'est bien, on est heureux d'être en repos. C'est un privilège, c'est une nouvelle occasion de refaire le plein pour nous tous, un temps pour nous préparer à faire avancer le royaume de Dieu dans notre vie et dans le lieu où Dieu nous a semés, nous a placés stratégiquement. Hein, rappelez-vous que vous êtes, si vous êtes électricien, vous êtes simplement un agent du royaume déguisé en électricien, comme je dis souvent, hein, c'est ça que nous sommes, hein, là où Dieu nous a mis. Si vous avez mal fini votre année scolaire, ou de travail pour ceux qui ne sont pas à l'université ou à l'école, sur le plan spirituel, donc si vous l'avez mal terminé, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça continue. La médiocrité, la tiédeur, le péché ne sont pas une fatalité dans nos vies. Et parce qu'aujourd'hui, on a le choix. Avant, on n'avait pas, on ne savait même pas ce que c'était que le péché. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'on n'est pas qu'une pauvre victime et qu'on peut tous se repentir de nos péchés, qu'on peut tous se ressaisir, se détourner du mal, s'approprier de la grâce de Dieu. Et on peut tous décider aujourd'hui de sortir de notre tunnel. On peut tous décider d'obéir à nouveau au Seigneur et à notre Sauveur. En tant que chrétien, en tant que disciple, qui prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, avons-nous une autre alternative? Alors, pour redémarrer sur un bon pied, que nous commande donc la parole du Seigneur? Eh bien, on a tout de suite donc le thème de cette prédication dans ce texte que nous venons de lire. Soyez remplis de l'Esprit. Version seconde, c'est la version du Sommeur, si mes souvenirs sont bons, ou la Nouvelle Bible, second 21. Donc, soyez remplis de l'Esprit. Voilà ce qui va nous donner la pêche pour vivre la vie que Dieu nous destine pour accomplir ses plans parfaits. Voilà donc notre thème d'aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, être rempli de l'Esprit? Comment être rempli de l'Esprit? Nous verrons trois principes qui répondent à cette question. Ils se résument en trois commandements qui touchent notre relation à l'Esprit Saint que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et le premier nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Le deuxième « N'éteignez pas l'Esprit ». Et le troisième « Marchez par l'Esprit. Mais revenons donc à notre commandement qui nous occupe ce matin. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Il attend ça de nous. Ne vous enivrez pas de vin, ça vous conduira à une vie de désordre ou de débauche dans une autre version, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. C'est intéressant, ici il y a l'accent sur le fait que c'est une action constante. Soyez rempli de l'Esprit, c'est pas juste ça y est, boum, rempli. Non, non, c'est soyez constamment en train d'être rempli de l'Esprit ou par l'Esprit. Donc le commandement est clair. De quoi devons-nous être remplis? C'est clair, la palisse n'aurait pas dû mieux dire. Soyez rempli de l'Esprit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, de quoi suis-je rempli ce matin? De quoi est-ce que tu es rempli? Donc je m'inclus là-dedans. Est-ce que je suis rempli de lui ou de moi? De lui, des choses du ciel, de son royaume, ou des choses qui me concernent et de la terre uniquement? Si mes pensées sont sans cesse centrées sur mes petites ambitions, mes petits bobos, c'est peut-être pas étonnant que je n'ai peut-être pas trop le moral parfois pour envisager les lendemains. Pour qui? Pourquoi vis-tu? Vis-tu pour toi-même ou pour le Christ et son royaume? Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, pour eux c'est clair. Mais le Saint-Esprit, qui est-il? Quand même, au passage, il faudrait quand même le dire, même si ce n'est pas l'objet de cette prédication. D'après l'Écriture, ce n'est pas une force aveugle et impersonnelle. C'est quelqu'un. Il est la troisième personne de la Trinité. On parle de lui, par ailleurs, avec cette expression, le Seigneur, l'Esprit. Parce que Dieu est esprit, encore une autre expression. Il est aussi littéralement le souffle de Dieu, en hébreu, ruach, c'est le mot qui est utilisé, pneuma, d'où vient le mot pneumatique, c'est pas très élégant, en grec, mais c'est la même idée. Sans le souffle de Dieu, pas de vie. Tu existes, tu es une âme vivante, car Dieu t'a fait une grâce, un privilège. Il a mis en toi son souffle de vie. Et sans le souffle de Dieu, pas de voix. Je ne pourrais pas parler s'il n'y avait pas le souffle dans mes poumons ce matin. Je n'entendrai pas sa voix, je ne le connaîtrai pas non plus parce que sa parole me serait inaudible. C'est le souffle qui porte ma voix en ce moment. C'est le souffle qui sort de ma bouche qui vous permet de m'entendre et de me comprendre ce matin. C'est quand même un beau miracle. Imaginez, j'ai une pensée dans ma tête là, que j'ai mise sur mon papier, que je suis en train de vous dire. Ça fait vibrer les cordes vocales là, en ce moment-là. Ça passe dans l'air, ça arrive, ça fait vibrer votre tympan, puis pouf, ça y est, c'est dans votre cerveau. Magique, quand même, un miracle fantastique quand même, quand on y réfléchit. Bon, belle image en tout cas. Verset 26, Jean chapitre 14. Ah non, je ne vais pas passer là-dessus, je vais laisser tomber ça, j'ai pas assez de temps ce matin. Donc revenons, que signifie donc être rempli de l'Esprit Saint? Eh bien, dans le texte, il y a une analogie, celui qu'on vient de lire. Ne vous enivrez pas de vin, ça vous conduit à une vie de désordre, mais soyez rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on est ivre? Eh bien, quand on a bu un coup de trop, on n'est plus tout à fait maître de soi-même, vous le savez bien. Nos sens sont altérés, nos réflexes sont ralentis, notre vision se brouille, ne reflète plus tout à fait la réalité des choses. On fait, on dit un peu n'importe quoi, on expérimente des émotions fortes en montagne russe, de la joie, de la dépression, pour certains, de la colère, de la paranoïa, même de la violence, on le sait bien. Et tout ça peut même nous mener au cimetière, comme vous le savez, donc à cause de nos mauvais choix. Boire ou conduire, ou fumer un joint, c'est à peu près la même chose, ou conduire, il faut choisir. Quand tu bouscules une chopine de bière, qu'est-ce qui sort de la chopine? De la bière. Bon, quand quelqu'un est plein de vin ou de cannabis, il ne faut pas grand-chose pour que ce qui est à l'intérieur déborde. Et en général, ce n'est pas très joli. Vous voyez? C'est ça qui est triste. Qu'est-ce qui peut bien sortir d'un tel homme ou d'une telle femme? En Galates chapitre 5, versets 19 à 21, je ne me rappelle plus si je l'avais donné. Oui, il est là, voilà. Dans ce texte, où par ailleurs on va retrouver le commandement dont je parlais tout à l'heure sur le commandement de marcher par l'Esprit, il est dit que, or, les œuvres de la chair, ce qu'on trouve quand on secoue quelqu'un qui est rempli de bière ou de vin, les œuvres de la chair sont manifestes. L'inconduite sexuelle ou la débauche, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions, jalouses, fureurs, ambitions personnelles, divisions, dissensions, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Ah, c'est quand même sérieux. Et oui, en général, c'est pas très joli ce qui peut sortir. Tu t'es vu quand t'as vu, disait le slogan. Et je crois que c'est bien dit. Autant donc pour la bonté, soi-disant innée et naturelle de l'homme. Bref, quand on est ivre, on est sous une autre influence. Par exemple, je me rappelle quand mes gamins étaient petits et que j'étais très occupé ou tendu ou un peu stressé, eh bien, si je n'étais pas rempli de l'Esprit Saint à ce moment-là, il n'en fallait pas beaucoup pour que je m'énerve et je lave la voix. Des fois, je n'étais pas trop fier de moi, de la manière dont j'ai réagi. Je demande pardon à mes enfants parfois. Quand quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il déborde. Et il déborde du Saint-Esprit et de ses fruits. C'est ce que la suite du texte nous dit dans Galates 5, versets 22 à 24. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses, mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu es en Jésus-Christ, si tu es à Jésus-Christ, si tu es rempli de Christ, alors tu vis la vie du crucifié. Tu te vois mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Et ça, c'est possible depuis le jour où on a compris que sur cette croix-là, c'est pas lui qui aurait dû être, c'était moi. Lui, c'était le juste. Le Saint-Esprit veut donc reproduire en nous le caractère et les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Voilà un bel objectif, ressembler au Christ. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais c'est un processus qui implique des disciplines de grâce que le Seigneur nous a données pour aller vers ce but. Dieu veut que tu attelles ta volonté dans une collaboration avec son esprit. C'est pourquoi il dit « Mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous, nous l'avons lu, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez rempli de l'Esprit. » Qu'attend donc le Seigneur de nous? Que veut-il? Il veut que nous soyons sans cesse en train, je l'ai dit tout à l'heure, d'être remplis de l'Esprit. Et ce n'est pas une option, c'est un commandement. Soyez. Et comme pour tout commandement, soit je suis dans l'obéissance, je fais ce qu'il faut pour que... j'en ai le bénéfice, soit je suis dans la désobéissance, avec les conséquences qui vont avec. Nous sommes donc responsables d'être ou non rempli du Seigneur l'Esprit. Dieu nous a donné des moyens de grâce. Vous les connaissez, la lecture de la parole du Seigneur, la méditation, la mémorisation, l'étude de la parole de Dieu, le jeûne personnel et communautaire, la prière, l'écoute, le silence, pas assez, j'ai relu un bouquin sur le silence là, le mois dernier, magnifique, ça m'a fait un bien fou. Oui, s'arrêter, faire silence, écouter la voix de Dieu. On veut souvent remplir les vides quand on prie, ben non, laissons le Seigneur nous parler. Le murmure doux et léger, eh oui. Donc le silence, le service, la communion fraternelle, etc. Autant de moyens de grâce. À nous de les pratiquer pour chercher à être sans cesse remplis du Saint-Esprit. Ainsi, on est sauvé une fois pour toutes, mais on n'est pas rempli une fois pour toutes. C'est ce que nous enseigne ce texte. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, le jour où nous nous repentons et mettons notre foi en Christ, Jésus dit que l'on est de nouveau. On est de l'Esprit, on est d'en haut, on est sauvé, on est né de Dieu. On a la vie éternelle, c'est une grâce, une faveur imméritée. On n'est pas enfant de Dieu un jour et enfant du diable le lendemain. Par contre, on peut être un chrétien charnel, on le sait dans l'Écriture, on est prévenu, misérable par notre désobéissance et indiscipliné. Mais si on appartient à Dieu, c'est pour toujours. Un chrétien charnel, c'est un triste chrétien. Mon père le disait avant moi, il avait cette expression, je l'ai retenue. Il n'est pas plein d'Esprit Saint, mais plein de ses passions, plein de lui-même. Il n'a aucune force contre son propre péché, contre la tentation, il n'y résiste même pas, parfois il n'y croit même plus. Il est désobéissant, il a en général perdu sa communion avec Dieu. On peut s'écarter, mais heureusement, on peut aussi se repentir, et c'est une bonne nouvelle, et revenir au Seigneur. Nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas juste pour ceux qui sont perdus. C'est aussi pour nous quand nous nous sommes éloignés. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi n'est-on pas rempli une fois pour toutes? Je me le demande. Est-ce qu'on ne serait pas par hasard des paniers percés en permanence? On a beau les mettre à la fontaine, plouf, ou sur la fontaine, et puis oups, ça passe, voilà. Alors, j'aime bien cette image qui m'a été inspirée à la lecture de l'ouvrage de Ralph Chalice. Vous retrouvez beaucoup de ces choses que je vous dis dans un des chapitres de Ralph, le bouquin Si tu veux aller loin, un classique. Au fond, on pourrait dire que tu es plutôt semblable à une rivière, si on devait se comparer en tant que chrétien, on serait plutôt semblable à une rivière, un canal, qu'à une bouteille. Est-ce que tu préfères boire à une source d'eau vive en montagne
ou une bouteille d'eau que tu as remplie il y a 6 mois et qui est restée oubliée au fond de ton coffre de voiture. Moi, je préfère boire à la source. Nous ne connaîtrons la plénitude que dans la mesure où nous laissons Dieu passer au travers de nous. Nous sommes un canal, hein, et où sa bénédiction, sa présence va vers les autres. Sa vie passe aux autres. Une rivière est pleine d'eau et peut couler uniquement dans la mesure où elle est reliée à sa source et où rien n'obstrue son lit. Sinon, ça se bouche, ça devient un étang saumâtre. Ça déborde par ailleurs, mais c'est bouché. Il y a des personnes ce matin qui ont besoin de se rebrancher à la source. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire le ménage, hein, pour enlever ce qui empêche la vie de l'esprit s'écouler vers les autres, hein, dans le canal que nous sommes. Par exemple, les non-pardons, l'impureté, et que sais-je, les colères. Hein. Parce que le ménage n'a pas été fait depuis longtemps parfois. Certains ressemblent non pas à une source ou à une rivière, mais à une mare d'eau saumâtre puante. Excusez la comparaison. Alors prenons nos pelles et nos pioches et attaquons le chantier. Hein, il faut ici atteler régulièrement, mes amis, se laisser examiner. Avons-nous besoin d'être baptisés ou d'être remplis ? Donc, quelle différence ? L'Écriture dit dans 1 Corinthiens 12, « En effet, nous avons été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. » Merci, il a appuyé avant, j'avais oublié de le faire. C'est bien, continue. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire si tu as mis ta confiance dans le Seigneur Jésus, tu as reçu une vie nouvelle de Dieu, tu es sauvé, tu es son enfant, tu fais désormais partie du corps du Christ, de l'Église, de l'Ecclésia, de l'Assemblée du Seigneur. En d'autres termes, pas besoin de rechercher après ta conversion une deuxième expérience. Certains frères et sœurs qui sont chers à nos cœurs le croient, mais ce n'est pas ce que nous comprenons de l'Écriture. Nous n'avons pas besoin de chercher un nouveau baptême, une deuxième expérience, ou le baptême du Saint-Esprit qui serait postérieur à notre nouvelle naissance. En effet, tu es déjà, d'après ce texte, un enfant de Dieu, né de nouveau par l'Esprit Saint, et Dieu, le jour où il t'a baptisé du Saint-Esprit, il t'a joint au corps du Christ, à l'Église du Seigneur. Ainsi donc, il n'y a qu'un seul baptême du Saint-Esprit, une seule immersion, mais par contre de multitudes, plénitude à rechercher tout au long de sa vie. Ça, c'est très important. La plénitude du Saint-Esprit, nous pouvons avoir des expériences assez extraordinaires en la recherchant. D'ailleurs, c'est notre devoir de rechercher à être rempli X fois tout au long de notre vie. Je me rappelle une fois, après ma conversion, la nuit où mon frère s'est converti. On était à la Villa Emmanuel. Je vous garantis que ce soir-là, nous avons senti l'Esprit du Seigneur parmi nous comme jamais je l'avais senti, même peut-être auparavant. Peut-être le jour de ma conversion aussi, j'avais été rempli du Seigneur aussi, il y avait une grande joie dans ma vie. Mais ce soir-là, mon frère s'est donné au Seigneur. Et on a tous raconté ce qui s'était passé ce soir-là, comment on avait été visité par l'Esprit du Seigneur ce jour-là. Oui, nous devons chercher à être remplis sans cesse. Il peut y avoir de très belles expériences avec Dieu, très fortes, hein, parce que l'Esprit nous remplit. Et c'est notre devoir de le rechercher. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être remplis du Saint-Esprit ? Est-ce que ce serait pour nous sentir bien ? Pour notre confort, Éphésiens 5, 19, il est dit « Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, par vos chants et vos psaumes, à tout moment et pour toutes choses. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ces trois verbes ici, hein, « s'encourager »,« louer »,« remercier hein, », indique que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, puisque dans le contexte c'était le cas, hein, eh bien il se détourne de lui-même pour se tourner vers Dieu. Notre problème, et j'ai bien aimé l'introduction, il disait, quand on voit l'univers, on se rend compte que l'univers ne tourne pas autour de nous. Quoi. Je ne suis pas le centre de l'univers. Or, la propension du péché dans notre vie, c'est de nous faire croire qu'on est le centre de l'univers. Hein. C'est moi et Dieu, moi et les autres, moi et l'Église, moi, mais c'est toujours moi, quoi. C'est tout autour de moi, quoi. Et pourquoi Dieu, il ne me répond pas ? Et pourquoi Dieu, il ne me bénit pas ? Et pourquoi Dieu, il me permet d'arriver des trucs pareils dans ma vie ? Non, ça pas. Le Seigneur ne vous a créé pas à cause de vous. C'est à cause de son bon plaisir, de sa volonté qu'il nous a créé. C'est un privilège énorme, formidable, de pouvoir communier avec Dieu, d'exister plutôt que d'être une pierre. Enfin, à préférer, je préfère être un homme qui a l'Esprit de Dieu, qui peut communier avec Dieu, qui peut communier avec vous, et puis qui peut connaître Dieu pour l'éternité. Enfin, formidable quand même. En tout cas, ça ne tourne pas autour de moi l'histoire du monde. Bon, rappelons-nous cela. Au commencement, Dieu. Pas moi, pas vous. Donc les trois verbes ici indiquent que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit se détourne de lui-même pour se tourner vers Dieu et vers les autres. Nous sommes appelés à chercher à être remplis constamment pour servir Dieu dans la louange, l'action de grâce, et aussi pour nous ouvrir aux autres et édifier les autres, nous édifier mutuellement. Mon petit plaisir et mes frissons ne sont pas le but d'être rempli du Saint-Esprit, mes amis. Nous ne recherchons pas l'expérience pour l'expérience. Ce n'est pas pour nous. Alors comment être rempli de l'Esprit ? Un autre principe ici, donc, c'est la repentance instantanée, la confession instantanée, l'appropriation du pardon instantané. Le premier principe nous dit, donc, lié à ce prochain commandement, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. En d'autres termes, écoute ta conscience. Que te dit l'Esprit ? L'Esprit de Dieu peut être attristé, parce qu'il est une personne et non une force aveugle, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons tous régulièrement attristé le Seigneur l'Esprit, par nos péchés. Nous le savons, parce que notre conscience en est avertie par l'Esprit. De la même manière que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il nous prévient quand quelque chose ne va plus, ou ne va pas dans notre relation avec lui. Il y a une interruption de communion et non pas de filiation. Hein ? D'ailleurs, ici, c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent. Ils croient que parce qu'ils sont tristes ou parce qu'ils ont offensé Dieu, qu'ils n'ont plus la joie de Dieu, que ça y est, ils ne sont plus enfants de Dieu. Et puis l'accusateur vient, il en profite. Hein. « Ouais, tu te dis chrétien, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as dit, etc. » Puis, brah, il sert de la loi pour vous enfoncer à fond. Et en fait, il veut nous faire oublier que ce qui est rompu, c'est simplement notre communion, mais pas notre relation de filiation. Mes enfants sont toujours mes enfants, même quand ils restent, quand ils sont parfois désobéissants. Quel privilège ! Et ce que j'attends avec mes enfants quand ils ont été désobéissants, c'est qu'ils se repentent. Alors quand ils sont un peu durs de la feuille, je les corrige. Oui, ça fait partie de l'éducation. Hein ? Mais on va dire modérément, vous avez tout de suite pensé que la correction c'est ça ? Pas forcément, hein. Je dis, ça c'est la grosse Bertha, franchement. Il y a d'autres moyens, hein ? Ça serait peut-être le dernier. En tout cas, la tristesse de l'esprit est alors communiquée à notre esprit quand nous péchons. Et c'est quand même une grâce de Dieu. C'est quand même une grâce de Dieu qu'il y a une alarme qui se met à sonner, quelque chose qui ne va pas. C'est comme un feu rouge clignotant qui nous dit « Attention, tu t'es trompé de chemin. Tu t'égares, tu vas directement au fond du précipice si tu continues sur cette voie. » Et pourquoi est-ce que l'Esprit Saint est attristé ? Eh bien parce que nous lui appartenons. Si on était des étrangers, si on n'était pas ses enfants, ils font ce qu'ils veulent, hein. Je m'en fous. Ben non, on n'est pas comme ça avec nos enfants. Nous lui appartenons et Dieu désire une relation exclusive avec nous. Il ne tolère aucun faux Dieu, aucune idole dans nos vies. Nous avons été marqués de son sceau pour le jour où nous serons enfin réunis avec lui. Nous avons été destinés à lui ressembler et non à pécher. Ça, c'est notre vocation, lui ressembler. Par tous les fruits de l'Esprit, par l'œuvre de la nouvelle naissance en nous, de l'Esprit. Ça, c'est notre vocation, notre destinée. C'est là donc, c'est notre vocation parce que nous sommes enfants de Dieu depuis que nous sommes confiés en lui. En ce sens, donc, on pourrait dire que le péché, pour un croyant, c'est un anachronisme, un écart par rapport à la norme qui nous définit. Des fois, j'entends des frères ou des sœurs qui vont un peu trop vite. Ils disent, l'homme est pécheur. Ben oui, c'est vrai, c'est un fait, l'homme pêche. Mais est-ce que l'homme est du verbe être pécheur ? Est-ce que c'est ça qui le définit absolument ? Moi, je vois dans la Genèse, le péché s'est intervenu après que Dieu nous ait fait, à son image. Alors, certes, il m'arrive de pécher, mais je suis d'abord une créature faite à l'image de Dieu. D'accord ? Donc ça, c'est quand même important. Qu'est-ce qui me définit ? Et surtout, en tant que chrétien, ce n'est pas le péché qui me définit. Hein ? Je ne suis pas simplement un pécheur pardonné, comme on dit des fois. Oui, certes. Dieu me pardonne, je me repens, je confesse mon péché, etc. Mais je dirais que Dieu veut que nous nous voyons plutôt comme des saints qui sont parfois désobéissants. Ça serait plus, peut-être plus logique par rapport à ce que nous comprenons de notre nature et de notre identité dans l'Écriture. Hein? C'est notre destinée, c'est d'être comme Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Hein? Dis-moi qui tu crois être, et je te dirai ce que tu feras. Si tu crois être un voleur, tu voleras. Si tu crois être un virtuose, tu apprendras la musique, tu feras de la belle musique. Voilà. Hein? Comment tu te vois ? Bon. Alors, que faire si l'esprit que Dieu a placé en nous est attristé ? Eh bien, il faut toujours obéir à notre conscience, on le sait. Elle n'est pas infaillible, hein, parce que, oui, c'est vrai, le péché habite notre chair, notre ancienne nature. Hein, dans la mesure, il faut obéir à notre conscience, surtout dans la mesure où elle a été éduquée par la parole de Dieu. Et bien sûr, il faut obéir à la parole de Dieu. Dans ce cas, il est bon de nous demander, mais pourquoi l'esprit est attristé ? Et dès que le péché est identifié dans notre vie, eh bien, Dieu nous demande de nous repentir sur le champ, de nous détourner de notre péché et de le confesser dans la foulée. C'est pourquoi dans 1 Jean 1,9, hein, il est dit, si nous confessons nos péchés, il, sous-entendu Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Confesser signifie dire la même chose que. Être en accord avec Dieu sur la réalité du mal dans ma vie. Oui, Seigneur, ce n'est pas juste ce que j'ai fait, ce n'est pas juste la manière dont j'ai réagi, ce n'est pas juste ce que j'ai dit, ça t'a offensé, ça a offensé quelqu'un, je te demande pardon, Seigneur. C'est dire oui au Seigneur, hein, au fond, être d'accord avec Dieu sur la gravité de la chose, et de dire que oui, j'ai besoin de ton pardon, Seigneur. Quelle est la promesse pour celui qui confesse son péché dans la repentance, dans ce texte ? Eh bien, il nous pardonne et il nous purifie notre péché, nous dit l'Écriture. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle à sa parole et il est juste envers son Fils qui a pris sur lui le châtiment que nous méritions. Fidèle et juste, fidèle à sa parole et juste envers son Fils. Crois-tu que le Seigneur est fidèle et juste ? Si oui, alors tu t'approprieras du pardon de Dieu et tu te relèveras promptement. Il y a quelqu'un qui a dit que la maturité chrétienne, c'est le fait d'être prompt à se repentir. Je crois que c'est vrai. C'est quoi l'alternative ? Ben, tu resteras écrasé sous l'accusation du diable, inutile dans la main de Dieu pour accomplir sa volonté. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, nous dit l'Écriture, ou tu seras délivré, y compris de la culpabilité de ton péché. Alors gare à l'orgueil de croire que son sacrifice n'est pas suffisant, parce que de facto c'est ça qu'on fait quand on ne s'approprie pas du pardon du Seigneur qu'il nous offre. Repens-toi, obéis, crois au pardon si chèrement payé par le Seigneur. Ça me fait penser souvent à cette personne, imaginez, je vous offense, et puis je me rends compte que je vous ai offensé, alors je viens, excuse-moi, ce que j'ai dit, ce n'était pas juste, ce n'était pas bien. Pardonne-moi. Ah, c'est bon, ça va, je te pardonne, c'est pas grave, ça nous arrive tous. À un moment donné, on dérape. Bon. Semaine suivante, je vous revois. Je suis vraiment désolé de t'avoir offensé la semaine dernière. Il dit oui, mais je t'ai déjà pardonné, c'est bon. Semaine suivante, rebolote. Je suis vraiment, mais alors, je travaillais, j'endors plus. Je suis vraiment désolé de t'avoir offensé. Il dit mais voilà, il y a un marre. Je t'ai déjà dit que je t'ai pardonné. Pourquoi tu reviens toujours là-dessus ? Il y a un marre à la fin. On ne peut pas changer de conversation. Hein ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai remarqué dans ma vie chrétienne, parfois, surtout quand j'étais jeune chrétien, en gros, quand j'avais péché, il fallait que je me mortifie un certain temps. Vous voyez le geste ? Hein, vous savez ce geste que c'est ? Hein, c'était comme Luther qui se fouettait, hein, pour son péché, hein, parce qu'il fallait qu'il se mortifie sur son péché, bref, qu'il mortifie la chair. C'était sa manière de compréhension du texte. Et puis qu'à un moment donné, je dis, bon, maintenant, c'est bon. Je me suis assez mortifié sur mon péché, je me suis assez puni de mon péché, je peux donc m'approprier du pardon de Dieu et me sentir bien. Ah, c'est formidable, la vie est belle, Dieu m'a pardonné, Dieu est gracieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi cette théologie-là ? En gros, tu te fais Dieu, juge et applicateur des peines. C'est Dieu le seul juge, c'est pas toi. Est-ce que tu ignores qu'un seul péché te sépare de Dieu pour l'éternité parce que Dieu est saint et qu'il ne tolère le péché ? Et c'est pour ça que le Christ est mort. Sinon, il n'y a pas besoin qu'il vienne pour nous sauver, si on peut sauver nous-mêmes. Et si en plus, c'est nous qui décidons combien de temps il faut que je souffre pour me racheter de mon péché et puis jouir enfin de la communion avec Dieu. Et oui, c'est une grâce scandaleuse, mais c'est la grâce de Dieu. Hein, c'est ça. Comment être rempli de l'Esprit ? Un deuxième principe, bien par une obéissance instantanée. Le deuxième principe est lié donc à ce commandement suivant. N'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Ou dans une autre version. On peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Et j'aime bien aimer cette autre version, cette autre traduction. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. N'éteignez pas l'Esprit. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ou ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit, encore dans une autre version. Intéressant. Contrairement à la période de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, une fois que l'Esprit est donné, c'est pour toujours. Rappelez, Saül, l'Esprit Saint lui a été ôté. David priait dans le psaume 51, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Mais un croyant de la Nouvelle Alliance n'a plus à prier ainsi. Il ne peut plus parce qu'il a été marqué du sceau de l'Esprit. Il est né de nouveau, il a été adjoint au corps du Christ. Une fois sauvé, toujours sauvé. Par contre, on peut résister à l'Esprit qui nous laisse libres de nos choix. Contrairement aux esprits mauvais qui n'ont que faire de notre volonté et de notre personnalité, ce sont des tyrans. Mais l'Esprit Saint est respectueux de notre personne. Nous sommes faits à son image. Dieu communie avec des gens qui sont son image, qui veulent une relation de respect, d'amour. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de liberté si on a affaire à un tyran. Et c'est vrai que Dieu, parfois, nous laisse finalement la possibilité de refuser de l'écouter. On peut refuser de nous laisser éclairer par Dieu. C'est alors qu'on court un grave danger, vous le savez. Dans Romains chapitre 1, verset 18, Paul, parlant des incroyants rebelles, dit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » Par trois fois dans le reste du passage, il est écrit qu'à cause de cela, Dieu les a livrés, c'est une expression qui revient trois fois, à leur péché. Versets 19 et 28, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi, ça c'est au verset 28, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Dans d'autres versions, c'est le mot livré. Hein ? Il les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. En clair, si je résiste au Saint-Esprit qui m'avertit, il se peut très bien que Dieu nous livre à l'objet de nos convoitises et qu'on fasse un très grand plongeon. Au fond, c'est comme s'il disait, tu veux croire au mensonge, malgré tous les rappels à l'ordre, les feux rouges, la tristesse de l'esprit, les rappels. Alors vas-y à fond, vas-y, tu es libre. Et quand tu seras au fond, alors repens-toi, souviens-toi, rappelle-toi dans quel but Dieu t'a sauvé. C'est bien connu, souvent, on ne change qu'avec un fusil dans le dos. Et, sauf qu'ici, le fusil, c'est nous qui nous le mettons sur nous-mêmes, hein, par notre entêtement à désobéir. Alors, on peut toujours revenir, certes, mais il n'est pas dit qu'on en reviendra indemne. Il n'est pas dit qu'on en reviendra sans bagage, sans bosse, hein, pour le reste de nos jours ici-bas. Dieu veut pardonner nos péchés, mais il n'a pas dit qu'il enlèverait les conséquences de tous nos mauvais choix ici-bas. Il le fait souvent, c'est sa grâce, mais pas toujours. C'est toujours une grâce, jamais un dû, sinon ce n'est pas une grâce. Par exemple, tu peux décider d'aller, parce que tu crois que tu es un voleur, tu peux décider d'aller dévaliser une banque, hein, et te repentir ensuite. Oui, en prison. Dieu te pardonnera, mais tu resteras probablement en prison. Hein. C'est la conséquence de nos mauvais choix. Sans parler des années et des années perdues, dans le processus. Il est même question dans la lettre aux Corinthiens d'un homme qui a attiré la colère de Dieu, tant son péché était grave. Un croyant dont Paul dit que la mort l'attendait, mais que son âme serait sauvée comme au travers du feu. Il allait tout perdre, sauf la vie éternelle. Il est vrai qu'arrivé à un certain point dans les profondeurs du péché ou du mal, on ne sait plus, vu de l'extérieur dans la vie de cet homme, s'il s'agit d'un vrai chrétien, ou simplement de quelqu'un qui s'est illusionné sur son salut. Nous ne croyons pas à la perte du salut, nous croyons à l'illusion du salut. Quel gâchis, quel dommage que Dieu soit parfois appelé à rappeler certains saints désobéissants à lui, tant les dégâts sont énormes, ou pour arrêter la casse et le déshonneur sur son nom. Dans tous les cas, Dieu t'appelle à ne pas éteindre l'esprit et à ne pas lui résister, où il finirait peut-être bien par se taire. Si tu penses avoir éteint l'esprit, tu peux te repentir. Ici et maintenant, c'est une bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur, c'est pour toi, c'est pour moi. Tu peux décider d'obéir et de redémarrer dans la grâce et l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est ton choix. Et le dernier principe, le troisième, c'est la foi instantanée. Liée à ce commandement, marchez par l'esprit, Galates 5. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si tu veux être rempli par l'esprit, de l'esprit, alors tu vas apprendre à marcher par l'esprit. Et marcher, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on se prend des gamelles au démarrage. Quand mes enfants étaient petits et qu'ils étaient en train d'apprendre à marcher, je leur disais, bah, viens, viens vers papa, viens, viens. Alors c'est bien ce qui s'est passé la plupart du temps au démarrage. Eux, dans un acte de foi extraordinaire dans leur papa ou leur maman, hein, faisaient leur premier pas. Et même s'ils se prenaient gamelle sur gamelle, eh bien, ils se sont relevés, ils ont à nouveau exercé la foi pour aller vers papa ou maman qui les appelait. Et heureusement qu'ils n'ont pas dit après la première gamelle, « Ah ben, puisque pour marcher, on risque de tomber, alors si c'est comme ça, non, alors, ça ne sera plus. Hein. Dieu s'est trompé, hein. Pourquoi il m'a fait deux jambes, hein. Il m'a fait me faire des ailes. Hein. On ne m'y reprendra plus. » Heureusement que nous, parents, on ne les a pas empêchés de marcher, de se prendre des gamelles non plus. Il y a des parents qui font ça, hein. Ce sont ces gens qui sont surprotecteurs. Vous ne leur rendez pas service. La vie n'est pas juste. La vie est terrible. Hein. Nous vivons un monde déchu. Rappelez-vous-en toujours. Il en va de même dans la vie spirituelle. Dieu, notre Père, nous dit, « Viens vers moi, passe par ce chemin, écoute-moi. » J'ai donc toujours le choix, soit de faire confiance et d'obéir, me mettre en marche avec et envers Dieu, soit de n'en faire qu'à ma tête et de faire du surplace. Te serais-tu arrêté de marcher avec Dieu, mon ami ? Qu'est-ce que ça veut dire, marcher ? C'est aller de l'avant ? C'est faire la volonté de Dieu dans ce texte, qu'il me montre dans sa parole et par son esprit. Et les deux ne se contredisent jamais, car c'est l'esprit qui a inspiré, soufflé, insufflé sa parole aux prophètes qui ont écrit cette parole que nous lisons chaque jour. Que signifie faire la volonté de Dieu ? Quelqu'un a dit que faire la volonté de Dieu, c'est quand ma volonté croise celle de Dieu et que je choisis de faire celle de Dieu. Je vis la vie du crucifié. Je m'identifie à Christ dans sa mort et sa résurrection. Marcher donc par l'Esprit, c'est un commandement, mais pour le faire, j'ai besoin de l'Esprit, de sa force, de sa plénitude, de sa communion et de sa direction. C'est une marche par la foi. C'est pourquoi il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Suis-je sensible à l'Esprit dans ma vie ? Es-tu sensible ? Est-ce que je lui prête attention quand il me parle par sa parole, par ma conscience, par les frères et sœurs, par les circonstances, par mes amis même non-croyants ? Si oui, est-ce que je suis prêt à lui faire confiance ? Et si oui, est-ce que, avez-vous remarqué la promesse liée à ce commandement ? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Conclusion. Soyons sans cesse en train de rechercher à être remplis du Saint-Esprit. N'attristons pas l'Esprit. Soyons rapides pour nous repentir et confesser notre péché en nous appropriant de son pardon. N'éteignons pas l'Esprit. Ne résistons pas à sa direction. Soyons prompts à lui obéir. Marchons par l'Esprit et faisons-lui confiance en nous laissant conduire. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Prions. Merci notre Père de nous avoir envoyé Jésus-Christ ton Fils. Merci Jésus, Seigneur Jésus, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais que tu nous as donné ton Esprit qui nous a fait naître de nouveau, qui habite en nous, afin que nous puissions être en communion avec le Père et avec le Fils et avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété, toute la force dont j'ai besoin, au moment où j'en ai besoin, pour autant que je sois dans la foi et y fasse appel, pour pouvoir marcher par l'Esprit. Vivre selon l'Esprit. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Pardonne-nous si nous avons attristé ton esprit. Purifie-nous de nos péchés. Merci de nous accueillir au nom de Jésus-Christ, par ta grâce. Amen.